savoir, Louise Tourret.
Et exceptionnellement deux sujets dans ce numéro d'Être et Savoir. Notre dossier, qui sera la plus longue partie de l'émission, sera consacré à l'orthophonie. En effet, le recours à un orthophoniste au cours de la scolarité semble devenu banal. Et ce besoin s'affirme incontournable pour les enfants atteints de troubles des apprentissages. Aujourd'hui, on utilise le terme générique dyslexique, dyspraxique, dyscalculique. Et le 10 octobre prochain, c'est-à-dire le 10-10, sera la journée des 10, je vous l'apprends peut-être. Donc nous allons nous demander ce que signifie l'importance accrue de l'orthophonie dans les parcours d'apprentissage, si nous assistons à une médicalisation des difficultés scolaires par exemple, et comment s'organise la communication des professionnels avec les enseignants et les parents. Comment aussi répondre à la question de l'inégal accès aux soins, alors que les orthophonistes, qui s'occupent aussi des adultes et en particulier des personnes âgées, sont assaillis de demandes. Avec nous, une orthophoniste, une médecin et un enseignant. Vous entendrez également le neuroscientifique Michel Demurger qui pointe la responsabilité des écrans. Et dans cette émission aussi, nous voulions évoquer, ce sera notre premier sujet, le grand malaise professionnel des directeurs et directrices d'école et des enseignants. Et ce, après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin, près de Paris. Dans quelques instants, vous entendrez Vincent de Gaulle-Jac, qui est sociologue et auteur de plusieurs ouvrages sur la souffrance au travail. Et enfin, je vous l'annonce maintenant, mais c'est en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert. Ce sera avec l'actrice et désormais réalisatrice Afsia Hersi, dont le film « Tu mérites un amour » a beaucoup plu à Sophie. Et donc, je l'ai dit exceptionnellement, nous commençons cette émission par l'actualité, une actualité qui a beaucoup touché le monde de l'éducation. Une directrice d'école, Christine Renon, a mis fin à ses jours sur son lieu de travail, dans son école. Le sociologue Vincent de Gaulle-Jac, qui s'intéresse depuis longtemps à la souffrance au travail, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Il a pris le temps de nous répondre. Pour analyser ce geste dramatique, il dresse, vous l'entendrez, des parallèles avec l'évolution d'autres métiers dans d'autres secteurs, à l'hôpital, dans la police, à la protection judiciaire de la jeunesse. Je lui ai d'abord demandé d'évoquer la lettre qu'a laissée Christine Renon, un texte qui raconte son quotidien, ses difficultés à accomplir son travail et son sentiment de ne pas être entendue.
Ça illustre bien ce décalage qui existe et que vivent douloureusement de plus en plus d'agents des institutions publiques aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la police, que ce soit dans le travail social, là c'est dans l'éducation, hein, ça fait, on a alerté avec dans le manifeste de l'appel des appels sur la transversalité de ce phénomène, et c'est vrai que je l'étudiais moi en amont puisque je l'ai vu apparaître aussi quand on a fait la modernisation, je le mets entre guillemets, des entreprises publiques, et France Télécom, la SNCF, la RATP, on se suicide dans toutes ces institutions. Je me souviens de Catherine Kokowska, qui était la directrice de la PJJ, qui avait écrit un texte qui était à peu près mot pour mot ce que l'on retrouve dans la, c'était il y a une dizaine d'années, ce qu'on retrouve dans la lettre de Christine Renon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en particulier le fait que toutes les réformes qui sont mises en place de cette réorganisation permanente pèsent de plus en plus non seulement sur les agents, mais aussi sur la hiérarchie. Et ce qu'ils disent, c'est que ça les empêche de travailler. C'est ces réformes qui sont nées avec le New Public Management, la Corporate Governance, et c'est ça que j'ai essayé d'analyser dans mes livres, c'est-à-dire de montrer que ces nouvelles formes de gestion produisaient deux effets. Le premier, c'est que les personnes qui y travaillent ont l'impression que ces réformes les empêchent de travailler et que derrière cet empêchement du travail, c'est en fait qu'ils se sont investis dans l'éducation, dans la santé, dans le travail social parce qu'ils croyaient aux missions de l'institution. Et en fait, l'organisation, c'est-à-dire les modalités opératoires de mise en œuvre de leur mission, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la gestion, et tous ces nouveaux outils de gestion qui sont présentés comme devant améliorer les choses, c'est en fait, ça les met en difficulté, ça les empêche de travailler et ça leur fait perdre le sens du travail et les valeurs qu'ils avaient mis dans leur choix professionnel.
Vincent de Gaulle-Jacques, vous n'êtes pas le seul à faire ce constat. Christophe Dejour, Marie Peset, d'autres spécialistes vous rejoignent dans cette analyse. Il y a aussi cette dimension qui est soulevée, l'impression de ne pas pouvoir bien faire son travail. C'est pas la quantité de travail qui pose le plus problème, même si elle pose problème. C'est le sentiment de ne jamais terminer quelque chose ou de ne pas le faire bien.
Voilà, donc elle parle dans sa lettre de ces petits riens qui occupent 200% du temps. Moi, je l'ai constaté aussi à l'université ou dans la recherche ou à l'hôpital. C'est-à-dire que ce qui vient bouffer vraiment l'énergie, c'est qu'on a l'impression qu'il faut passer de plus en plus de temps pour créer les conditions pour pouvoir bien travailler. C'est tous ces petits riens et ils ont le sentiment que tout ça ne sert à rien, que c'est pour remplir des objectifs, remplir des cases, remplir des dossiers, appliquer des procédures, obéir à des référentiels, etc. C'est-à-dire cette approche gestionnaire, elle est totalement instrumentalisante et elle bouffe un temps fou. Et c'est ce sentiment-là, il est unanimement partagé par tous les agents qui sont confrontés à toutes ces réformes, la réforme hospitalière, la réforme de l'université, la réforme de l'enseignement, la réforme ceci, la réforme cela, qui en fait tous aboutissent à mettre les agents dans cette difficulté d'avoir le sentiment que la plus grande partie de leur travail ne sert à rien.
Aujourd'hui, dans l'éducation, on parle de bienveillance. Alors, on en parle à l'endroit des élèves, on en parle aussi dans les rapports hiérarchiques et entre collègues. Cette parole vient de l'institution. Comment vous interprétez la montée en puissance de ce terme ?
On a l'impression que plus on ratiocine sur les conditions objectives de travail, sur les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir remplir les missions qui nous sont confiées, plus il y a un discours, donc on dit faire plus avec moins comme si c'était anodin et comme si c'était possible. Donc les conditions objectives se dégradent et du coup, subjectivement, les gens vont pas bien. Et donc, on met en place tout un discours sur le care, sur la bienveillance, sur l'attention à l'autre, etc., qui est d'autant plus nécessaire que, effectivement, objectivement, on n'a pas les moyens de la bienveillance. Dans les services d'urgence à l'hôpital, tous les urgentistes, il suffit de les écouter, vous disent on n'a plus les moyens de s'occuper des urgences qui arrivent. Et alors, il y a une contradiction, cette contradiction-là devient tellement intense que ça participe au mal-être des employés, des professionnels, qui ne demandent pas mieux que de bien travailler. On leur renvoie que si ça marche pas, c'est parce qu'ils résistent au changement, alors que s'ils résistent au changement, c'est parce que ces changements les empêchent de bien travailler. Donc on est dans une organisation que j'ai appelée, dans mon dernier livre, paradoxante. C'est-à-dire, c'est tous ces outils qui sont mis en place, soi-disant, pour améliorer l'efficience, sont en fait des outils qui produisent, qui mettent les agents dans des injonctions paradoxales en permanence, et en particulier, il faut que vous soyez autonome, il faut que vous soyez, qu'il y ait de la bienveillance, prendre soin de l'autre, etc. Mais les conditions dans lesquelles ils sont vont exactement à l'inverse, et c'est une des raisons qui les rend malades.
Vincent de Gaulle-Jacques, vous êtes sociologue, vous faites de la sociologie clinique. Alors, que peuvent faire les individus, les professionnels, seul et collectivement pour ne pas souffrir?
Alors, votre question, évidemment, mériterait un long développement. Il y a le niveau individuel, pour ne moins souffrir, pour se protéger de ça. Il y en a qui choisissent la fuite. Il y a des gens qui tombent, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, tombent malades et se mettent en arrêt maladie et tombent vraiment malades parce que, sinon, ils ont l'impression qu'ils vont devenir complètement dingues, complètement fous. Donc ça, c'est l'éloge de la fuite, je dirais. Il y en a qui essayent de s'adapter malgré tout, mais ils sont de plus en plus dans le mal-être. Et donc, la proposition qui me paraît être d'une urgence capitale, c'est de donner aux agents les outils pour comprendre les contradictions dans lesquelles ils sont et pourquoi ils n'arrivent pas à les assumer. Et ça, ils en sont capables, c'est-à-dire de les traiter comme des sujets, et non pas comme des objets de réforme ou de traitement ou de tout ce qu'on veut, mais de les traiter comme des sujets, individuellement et collectivement, qui, eux, sont capables d'élaborer des réponses aux problèmes qui sont posés. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les gens qui nous gouvernent, les responsables qui sont dans ces institutions, etc., sont sourds et ne veulent pas entendre ça. Et donc la lettre de Christine Redon, c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette lettre. Parce qu'à la fin, elle remercie l'essentiel de l'institution, les parents, les élèves, les professeurs. C'est eux qui font l'institution. Dans sa lettre, elle montre son amour de l'institution, son amour de l'enseignement, etc. Cette personne, elle a été cassée complètement parce qu'elle ne peut plus faire correctement son travail.
Voilà pour l'analyse d'un spécialiste, hein, donc de la souffrance au travail, auteur de plusieurs ouvrages, Vincent de Goljac. Nous avons un enseignant ici, Adrien Martinez, bonjour.
Bonjour.
Alors, au départ, je vous ai invité pour parler du sujet qu'on va aborder dans un instant, hein, l'orthophonie. Mais en tant que syndicaliste, membre du SNUIPP-FSU, votre syndicat a publié un communiqué, de nombreux syndicats, le SNALC aussi a réagi, bien sûr, sur à la fois l'émotion provoquée par ce suicide parmi les enseignants, directeurs et directrices d'école, et sur les propos de ce sociologue, Vincent de Goljac.
Oui, je crois que beaucoup d'enseignants, d'enseignantes se retrouvent dans les mots posés par Christine Renon sur et qui expliquent son geste. Effectivement, on est dans un métier, mais ça a été évoqué, c'est pas le seul, où la multiplication du prescrit, les injonctions, nous éloignent du métier réel, du métier tel qu'on a envie de le faire et auquel Christine Renon était manifestement attachée.
Vous avez des exemples?
C'est les enquêtes, c'est renvoyer un dossier pour pouvoir aller au collège, pour pouvoir faire visiter le collège aux élèves de CM2, c'est rendre compte d'un certain nombre de faits qui ne sont pas le centre de notre métier. Et en ce sens-là, tout ce poids administratif qui est demandé par notre hiérarchie, en nous éloignant du métier réel, nous empêche de le faire tel qu'on aimerait le faire. Et ce sont au final, bien évidemment, les enseignants et les enseignantes qui le payent, mais aussi les enfants.
Est-ce que c'est un sujet, cette hyper-administrativité, cette hyper-administration du métier, un sujet que les syndicats posent sur la table quand ils discutent, soit avec les instances rectorales, soit avec le ministère?
Oui, à plusieurs points de vue. D'une part, pour les directeurs et directrices d'école, effectivement, il y a un vrai souci, un souci premier, c'est-à-dire que le fait de rendre compte de l'activité les empêche d'être totalement présents dans l'école, et ça, c'est un vrai problème, mais ça impacte aussi grandement le travail des enseignants. C'est des choses qui ont été posées syndicalement, qui sont verbalisées par la profession et sur lesquelles ces choses-là, sur lesquelles on n'avance pas, mais depuis de nombreuses années.
C'est ce qui explique pas de vagues, stylos rouges, qui sont aussi des mouvements hors syndicat.
Il y a eu effectivement le mouvement des stylos rouges. Il y a eu aussi le mouvement contre la loi Blanquer, qui a été aussi un mouvement syndical. Tous ces éléments-là, enfin tous ces mouvements participent un peu d'une même volonté de remettre l'école à l'endroit et le métier à l'endroit dans l'école.
Je crois qu'on va revenir sur cette question des difficultés, d'un certain malaise qui peut aller donc jusqu'à des événements extrêmement dramatiques comme ce suicide. Vous pourrez aussi entendre un reportage tourné à Pantin dans le cadre de la série Place de la République. C'est une série de l'émission Les Pieds sur Terre. Il sera diffusé le 3 octobre.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Adrien Martinez, enseignant, vous restez avec nous et je salue mes autres invités sur le dossier du jour, l'orthophonie. Françoise Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, conseillère technique chargée de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes, la FNO. Et je fais attention à ma prononciation. Catherine Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropédiatre, fondatrice de Paris Santé Réussite. J'ai tourné un reportage dans cette structure, on l'entendra tout à l'heure. Et vous êtes auteure de Dyslexie et troubles associés, on s'en sort, un ouvrage encourageant, publié en 2016 chez Tom Pouce Éditions.
Excellent. Maintenant, le roi de Rhodes se rend au rat des rats.
Le roi de Rhodes se rend
non,
au
rat... Non, non, Rhodes.
Le roi de Rhodes se rend au rat des rats.
C'est formidable. Encore un autre, s'il vous plaît.
Merci.
Baucis et Baucis, Adonis, qui rosissent. Pour Baucis, c'est peu si s'ils sont aussi sages. Baucis dit Tircis, Conoxis, c'est si je crisse. Oui, Baucis, j'en vaux six s'ils sont si novices.
Baucis, c'est Baucis, Adonis, qui rosis. Pour Baucis, c'est Peucis, ils sont aussi sages.
Mais Baucis, Diptyrsis, Condoxis, c'est Jean Chris. Oui, Baucis, Jean Baucis, ils sont si novices.
Baucis, c'est Baucis, Adonis, qui rosis. Pour Baucis, c'est Peucis, ils sont aussi sages.
Car Baucis, c'est Baucis.
Jean Chris, c'est Jean Chris.
Tyrsis, c'est Tyrsis.
Hoop-dee-doo-dee-doo-doo. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
À l'exercice de diction de chantons sous la pluie, un tour de force de traduction aussi, c'est très bien en anglais, c'est très bien en français. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on peut aller consulter un orthophoniste, un sossotement, un jojotement. Et c'est très courant chez les enfants les plus jeunes. En fait, en étudiant toutes les raisons, les motifs de consultation, on voit qu'ils sont extrêmement variés. Françoise Garcia, ça va de petits problèmes de prononciation à des difficultés énormes, même plus d'apprentissage de la lecture, mais même de savoir comprendre ce que c'est que lire.
Oui, et même ça peut aller jusqu'à avoir une difficulté à accéder aux mots. C'est-à-dire qu'on a le mot, mais pas comme le mot sur le bout de la langue, mais on a bien le mot, on a l'image du mot, et on n'arrive pas à programmer ou à accéder très rapidement à ce mot. Vous avez oublié tout à l'heure, dans la déclinaison des troubles des apprentissages, la dysphasie, donc qui peut être une manifestation, donc c'est un trouble du langage oral, et donc la manifestation peut être une difficulté d'accès aux mots.
Et ça concerne tous les âges de la vie.
Alors, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qu'on va découvrir, dépister, puis après diagnostiquer donc dans l'enfance, mais qui sont des troubles durables. Et l'impact de ces troubles va être plus ou moins important selon l'âge de la personne, mais adulte, celui qui enfant aura eu ce trouble-là, pourra encore avoir des répercussions du trouble dans des situations un petit peu stressantes ou un petit peu lorsqu'il est fatigué par exemple.
Alors, on peut aller chez l'orthophoniste à tous les âges, mais nous, on s'intéresse surtout, évidemment, aux enfants. Et le premier motif pour lequel enfant on va chez l'orthophoniste, c'est parce qu'on est envoyé par un enseignant. Est-ce que ce renvoi des enseignants vers les orthophonistes a évolué au fil du temps, Françoise Garcia?
Alors, il y a une consultation médicale avant la consultation en orthophonie. Je suis d'accord que bien souvent l'enseignant a repéré des difficultés, que ce soit des difficultés de langage ou d'apprentissage du langage écrit, et dans un dialogue avec la famille, l'enseignant va amener la famille à consulter le médecin puis l'orthophoniste. Il s'agit du circuit qu'on essaie de valoriser, du bon adressage.
C'est à ce circuit que je pensais, mais c'est très intéressant l'orthophonie, parce que c'est à la croisée du médical et des apprentissages, de la pédagogie, de l'école. On va y revenir. Catherine Billard, vous êtes médecin.
Oui, alors effectivement, je crois que cet adressage direct de l'école, envoyé par l'école à l'orthophoniste, n'est pas non plus une chose que les orthophonistes souhaitent, parce que il faut des éléments pré-diagnostiques, et finalement, l'important, c'est de leur envoyer les enfants qui ont besoin d'elles, de façon à ce qu'elles puissent faire leur travail.
Alors elles, parce que
97% de la profession,
il y en a un sur...
C'est bien de le préciser.
Oui, tout à fait, je dis elle, vous avez raison. De façon à ce qu'elle puisse faire des prises en charge qui sont suffisamment intenses pour les enfants qui en ont besoin. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose que les entraînements pédagogiques que les enseignants connaissent bien quand les enfants sont en difficulté.
Maintenant, ça pose des questions médicales, puisque... Les médecins que voient tous les enfants, c'est les médecins scolaires. Or, aujourd'hui, et on en parle régulièrement dans la presse, encore très récemment, on souligne que ces médecins scolaires manquent.
Alors, c'est vrai qu'il y a les médecins scolaires, il y a aussi les médecins de famille, il y a aussi les pédiatres. Les médecins scolaires ont toujours été très au courant. Et pour répondre à la question que vous posez, c'est vrai qu'ils ont que leur nombre s'est un petit peu restreint, comme le nombre des médecins de façon générale. Mais beaucoup d'académies font des efforts pour justement qu'elles fassent bien leur rôle. Ce d'autant qu'elles sont particulièrement importantes dans les quartiers défavorisés où les enfants n'ont pas de médecins de famille. Souvent, et pas de pédiatre non plus.
Et les mêmes quartiers où manquent ces médecins scolaires. On a consacré une émission à ce sujet, on peut la réécouter en podcast. Adrien Martinez, sur pas seulement l'adresse des enfants par un enseignant ou non à l'orthophoniste, mais plus sur ce qui va être fait. Parce que est-ce qu'à un moment, et à quel moment, dans les difficultés que vous repérez, vous dites « ça relève plus de ma pédagogie, ça relève plus de mon enseignement, il faudrait médicaliser », est-ce que c'est d'abord le terme que vous utilisez aussi, cette difficulté.
Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé en termes évolutifs ces dernières années. Je parle souvent de contrôle, mais une étude menée dans une circonscription de mon département a montré une augmentation importante des prises en charge extérieures corrélée à l'effondrement des postes de RAZ.
Alors les RAZ,
c'était les réseaux d'aide aux élèves en difficulté.
Des enseignants et des psychologues dans les écoles.
Des enseignants, psychologues, psychologues scolaires et enseignants spécialisés. Et il y a voilà, ces réseaux ont été amputés de près d'un tiers de leurs effectifs, ce qui a posé de gros problèmes dans les écoles et qui a changé un petit peu le mode de rapport au traitement de la difficulté scolaire. Autant avant, lorsqu'on identifiait un élève qui était qu'on identifie en difficulté scolaire, on allait voir le RAZEN, on avait une discussion de professionnel à professionnel, et on essayait d'identifier, avec l'aide du RAZEN, quelle était la démarche la plus appropriée, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en classe, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place avec le RAZEN, et in fine, si le besoin s'en faisait sentir, une prise en charge extérieure.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de difficultés qui doivent être prises en charge ailleurs que dans la classe?
Pour moi, il y a vraiment une difficulté à séparer la façon qu'a un enfant d'être en difficulté dans la classe de comment on l'analyse d'un point de vue médical. Pour dire autrement, les élèves que j'ai en difficulté, ils le sont un petit peu partout. Et la première lecture qu'on peut avoir, c'est le fait qu'ils ne s'engagent pas dans les apprentissages. Et que ce fait-là pose problème après, effectivement, en discrimination de son, en rapport à l'écrit, en rapport aux mathématiques. Mais le premier problème qu'on identifie, qu'on voit dans la situation d'apprentissage, c'est le fait que l'élève ne s'y met pas. Ce problème-là, il doit avoir une réponse pédagogique. C'est notre affaire. Et c'est là où il y a certainement des choses à discriminer, à différencier. Qu'est-ce qui relève de notre affaire et pour lequel, très certainement, la chose a reculé? Et qu'est-ce qui relève de l'affaire des professionnels de santé?
Et c'est un peu la poule et l'œuf. Hein. Il faut comprendre si le recul de certains enfants devant les apprentissages découle d'une difficulté préexistante ou si c'est cette difficulté qui s'est construite après des lacunes. Catherine Biard.
Mais c'est-à-dire qu'a priori, il faut se mettre en empathie avec l'enfant et dire que dans un premier temps, il faut voir s'il y a effectivement une difficulté ou des difficultés. Hein. Alors par exemple, pour vous donner un exemple, un enfant qui a du mal avec les sons et du coup, quand il doit lire un texte de CM2, c'est trop long pour lui, donc il s'y met pas parce qu'il sait qu'il va pas arriver jusqu'au bout. Ou l'orthographe, ou le calcul, où il a pas bien compris les décimales et donc il s'y met pas. C'est ça finalement le rôle qui est important, c'est de savoir, une fois que vous avez fait vos aides pédagogiques, que vous connaissez bien, avec toutes les difficultés effectivement que vous avez de ressources humaines en fonction de la fréquence de ces aides, de comprendre ce qu'il y a et à ce moment-là, de pouvoir adresser au rééducateur, alors c'est l'orthophoniste là aujourd'hui dont on parle, ça pourrait être pour d'autres problèmes, d'autres types de rééducateurs, pour vous aider, l'aider d'abord, vous aider et mettre ensemble un plan. Autrement dit, je crois qu'on est quand même obligé a priori de réfléchir au fait que s'il ne rentre pas dedans, c'est quand même souvent parce qu'il a du mal.
Donc une difficulté de départ. Et pourtant, il y a toujours cette idée qu'on pourrait, et ce serait dangereux, de naturaliser la difficulté scolaire, naturaliser l'échec scolaire. Là, je reprends une formule d'une autrice qui s'appelle Sandrine Garcia. C'était un livre publié en 2013. J'ai retrouvé à la bibliothèque de Radio France, à l'école des dyslexiques. On aurait tendance à trop consulter des orthophonistes et à suivre une sorte de chemin parallèle, ce qui ne serait pas forcément productif, alors que les difficultés devraient être traitées à l'école. Je commence par l'orthophoniste, mais je vous poserai aussi la question, Adrien Martinez.
Alors, je crois qu'on n'a pas trop recours à l'orthophonie. Quand on a recours à l'orthophonie, ce premier recours commence par un bilan orthophonique. Donc, au cours de ce bilan, le professionnel va examiner les capacités de l'enfant, va examiner son fonctionnement cognitif par rapport au langage, et donc être en capacité de dire, in fine, si l'enfant présente des difficultés qui sont d'ordre d'un trouble, ou s'il s'agit plutôt d'un retard d'apprentissage, ou s'il y a un autre retentissement affectif, ou éventuellement un besoin simplement d'une pédagogie un tout petit peu plus adaptée. Et donc au terme de ce bilan, seuls resteront soignés par l'orthophoniste les enfants qui ont besoin d'orthophonie. Donc, ceux pour qui le trouble a été avéré.
Un trouble avéré, alors ça c'est la réponse de l'orthophoniste. La réponse de l'enseignant sur cette médicalisation, est-ce que vous pourriez dire aussi, par exemple, est-ce que le temps vous manque? Vous avez parlé des maîtres spécialisés. Est-ce que les classes sont trop chargées? Est-ce que le CPA12, par exemple, c'est une bonne réponse?
Alors, le CPA12, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on y fait. Dans ce que je vais dire, il n'y a pas de négation de l'idée de trouble. Hein. J'irai pas du tout là-dedans. Mais il faut aussi avoir en tête, et c'est un constat partagé, donc je pense qu'il posera pas de problème, du fait que l'école française est une des écoles les plus inégalitaires des pays de l'OCDE, que ce sont les enfants des classes populaires qui en payent le prix le plus fort, et que face à ça, face à ce constat-là, l'institution scolaire a certainement eu une tendance à démissionner d'un point de vue pédagogique, avec un certain nombre de phénomènes. On a parlé des RASED, mais on pourra parler aussi du démantèlement de la formation.
Donc, certains disent, les enseignants, vous répondez l'institution.
Oui, je réponds l'institution. Parce que les enseignants ont à cœur le fait de faire réussir leurs élèves. Après, c'est les outils dont ils disposent très concrètement, qui sont des outils issus de la formation. La formation continue est en déshérence. La formation initiale l'est à bien des égards aussi. Hein. Pour mémoire, il y a des années 80, les enseignants étaient formés 3 ans. On est passé à 900 heures à partir des années 90. On est maintenant à 750 heures de formation pour les enseignants au début de carrière.
Dans votre formation d'enseignant du premier degré, on ne vous apprend pas à repérer des difficultés de lecture un peu spécifiques, type dyslexie, puisque la dyslexie, c'est sans être banal, bon...
Ça existe, ça se trouve.
Il y a une occurrence quand même assez. On n'a pas de chiffres exacts, hein, mais on rencontre des dyslexiques dans les classes.
Il y aurait deux problèmes, parmi plein de problèmes à identifier dans la formation. D'une part, il y a effectivement la question du repérage, mais avant cette question-là, il y a le fait de ces inégalités, ce rapport au savoir des enfants des classes populaires n'est pas au centre du système éducatif français. Et par là, il y a une construction d'une inégalité scolaire qui relèverait de pratiques pédagogiques. Il y a un enjeu pédagogique derrière cette question-là.
Il y a un enjeu pédagogique et en même temps, si on parle de pathologie, et on sait que toutes les classes sociales fréquentent l'orthophoniste, hein, pour le coup, ce n'est pas du tout réservé aux classes populaires. Est-ce que cet enjeu pédagogique, cet inégalitarisme de l'école, hein, ça c'est souligné par toutes les études, y compris les études du ministère de l'Éducation, c'est le même sujet que quand on parle de pathologies qui sont assez répandues et qui, en tant que pathologie, pourquoi aurait-elle une occurrence aussi sociale? Alors vous levez la main bien sagement, Catherine Billard, je vous donne la parole.
Non, j'aurais envie de dire, parce que c'est très intéressant ce que dit Monsieur Martinez, et c'est tout à fait vrai. D'abord, premièrement, il y a le fait que les enseignants sont un petit peu abandonnés dans leur soutien. Nous, quand on commence notre internat, on a des seniors qui viennent nous aider pour toutes les questions qu'on se pose.
En médecine.
Vous, on vous donne des classes. On ne donne pas une formation extrêmement étendue sur les trajets inhabituels. Et dans ces trajets inhabituels, on vous explique pas, alors que maintenant c'est très bien connu, ce que vous pouvez faire en petit groupe à besoins similaires, dans un premier temps, et qui permettra à ce moment-là, d'abord parce que toutes les études le disent, le soutiennent, ça permet à 60% des enfants de récupérer le niveau de leur père en fin d'année, et donc de ne pas avoir besoin de soins, ce qui
permet aussi de bien différencier ceux qui n'y répondent pas suffisamment et qui, cette fois-ci, relèveront d'une aide individualisée avec une spécialiste de façon intensive. Et ça, si vous voulez, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas assez soutenu sur le terrain dans cette aide-là.
Et sur l'idée de gradation dans la difficulté, parce qu'on parle de pathologie et on parle d'enfants qui ont des petits problèmes pour l'orthographe. Alors, petit problème, c'est pas très bien d'avoir une orthographe défaillante. Mais enfin, bon, le spectre est très large. Alors, à quel moment on évoque la pathologie ?
Alors, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'un côté les dyslexiques, les dysphasiques, les dysorthographiques, les dyscalculiques, et d'un autre côté, les enfants qui roulent sans aucun problème. Il y a tout un continuum. Ça, vous le connaissez bien, parce que vous voyez des enfants qui apprennent pas du tout à lire en CE2, donc ça, vous vous posez pas la question. C'est vrai qu'ils ont besoin de soins. Mais ce continuum, l'importance de ça, c'est que même avec une difficulté modérée, particulièrement vraie en calcul, si on n'aide pas l'enfant à contourner son obstacle en lui offrant plus de pédagogie, plus de béquilles, eh bien, il va être vite noyé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important de l'école et pour lequel on vous dit qu'il faut le faire, mais peut-être vous n'êtes pas toujours suffisamment soutenu pour pouvoir le faire concrètement.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas, L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là, L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts, L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Et les choix musicaux de cette émission se font par association d'idées. On a donc entendu Laetitia Serge Gainsbourg pour cette émission consacrée à l'orthophonie, aux difficultés des enfants qui sont courantes, petites ou grandes difficultés. Catherine Bière, médecin, vous avez dit que c'était un continuum. Je voudrais m'arrêter sur la prévention. On a dit on peut avant s'engager dans un parcours assez long avec un orthophoniste, on peut faire un bilan orthophonique, mais même avant, en fait, on pourrait faire plus de prévention et c'est ce que la Fédération nationale des orthophonistes cherche à mettre en place. Françoise Garcia.
Oui, donc avec un grand concours de l'assurance maladie, puisque dans le cadre de notre convention de professionnels de santé, lorsqu'on agit en libéral, nous sommes conventionnés avec l'assurance maladie. Nous avons développé une expérimentation en milieu scolaire de dépistage à 3 ans, 3 ans et demi de difficultés de langage et de communication, au travers d'un outil qui s'appelle le DPL3, dépistage prévention langage à 3 ans, outil recommandé par la NAES, qui a été aussi cité par la HAS dans le cadre du trouble.
Donc, des modules de prévention en partenariat avec les instances de santé.
Voilà, avec les instances de santé, et donc financer une expérimentation financée par l'assurance maladie, donc dans 3 villes, Nîmes, La Roche-sur-Yon et Bobigny, de façon à pouvoir dépister, repérer les enfants qui manifestent des difficultés quant au développement de leur langage et de leur communication en toute petite section de maternelle, afin de pouvoir proposer soit les soins très tôt pour ces enfants qui ont des difficultés de langage, soit une aide pédagogique en relation avec l'école puisque ce dépistage se fait à l'école, soit simplement en donnant des conseils aux familles.
Donc avec tous les enfants ?
Alors dans les villes pilotes, tous les enfants de petites sections de maternelle vont être concernées. C'est une expérience qui existe depuis plus de 15 ans dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais avec un autre type de financement, mais qui a permis de faire baisser considérablement le besoin de soins des enfants concernant le langage écrit au bénéfice de soins plus précoces concernant le langage oral. Parce que pour apprendre à lire, il faut avoir une maîtrise du langage oral suffisante.
Donc une approche qui ressemble un peu à ce que propose la Sécurité sociale pour les soins dentaires.
Tout à fait.
D'accord, avec des soins donc remboursés de dépistage. Le mot dépistage, il n'a pas bonne presse hein, dans l'éducation nationale. Ça a laissé quelques souvenirs, le dépistage à la maternelle. On a entendu enfant de 3 ans, Adrien Martinez, sur cette question d'inviter des orthophonistes à l'école pour aller voir un peu si des enfants ont besoin d'un suivi, en fait.
Alors là où j'ai une objection, mais qui pour le coup ne concerne pas les orthophonistes, c'est quand l'éducation nationale se met à penser et à catégoriser uniquement d'un point de vue médical, et quand ça empêche notre métier de se mener. C'est là où il y a une vraie faiblesse, un vrai enjeu. C'est suivant comment on nomme la difficulté scolaire, quel est le métier qui déboule derrière. Et le fait est que si les inégalités scolaires ont explosé ces dernières années, on peut constater qu'elles sont accompagnées de logiques d'individualisation des parcours et des apprentissages dans l'école, et que ça n'a pas fait du bien à la lutte contre les inégalités. Parce que ça nous empêche de faire notre métier, qui est celui du collectif.
Ça, c'est le point de vue du syndicaliste. Le ministre de l'Éducation pense, lui, que l'individualisation est une bonne réponse aux difficultés. Il n'est pas là pour vous répondre, donc je donne son point de vue. Parfois, les difficultés sont lourdes, elles sont importantes. Parfois, il y a de l'attente aussi avant de pouvoir aller consulter. Moi, je me suis rendue à Paris Santé Réussite. C'est une structure où vous avez travaillé, Catherine Biard, une structure modeste hein, par rapport aux demandes. Elle se situe dans le 20e arrondissement, près de la place des Fêtes, c'est un quartier populaire de Paris. Les locaux sont dans un centre d'accueil et de soins, pas du tout destiné simplement aux enfants, mais un peu à tous les publics. Au premier étage de cette structure, j'ai rencontré des médecins, une orthophoniste, une psychologue, donc qui accueille ces enfants en grande difficulté. Et celle que vous allez entendre, c'est l'orthophoniste Monique Touzin, Sawanatu Gassama, qui est psychologue, et c'est elle au début qui pose des questions à sa jeune patiente.
Je suis en CM1 et j'ai 10 ans. Je suis avec une psychologue qui m'apprend les mathématiques.
Est-ce que tu peux me dire par exemple ce qui est compliqué, ce que tu n'arrives pas à faire?
C'est les multiplications, tout ce qui est un peu dur. J'ai un problème d'écriture et...
Alors, et qu'est-ce que tu espères que ça va t'apporter, ça, le travail qu'on va faire ici?
Je sais pas.
Alors, je vais essayer de le dire autrement. Comment est-ce que tu voudrais que ce soit quand on aura fini tout le travail qu'on va faire ensemble?
Plus facile, plus simple, apprendre à écrire, enfin pour réussir dans la vie, puis voilà.
Dans les rééducations, le but, c'est quand même que l'enfant acquiert une autonomie à la fois affective, à la fois de pensée, et puis une autonomie avec son outil langage. Et cette autonomie-là, ça permet à l'enfant d'arriver à faire ce qu'il veut, donc à accéder à un certain bonheur de réussite, d'interagir, d'apprendre et d'avoir une vie qui corresponde à ce à quoi il aspire. Donc oui, c'est une forme de rendre les enfants heureux, que de les rendre conscients de leurs difficultés, mais que ça ne les empêche pas d'aller plus loin, de pouvoir dépasser et de faire avec. Voilà, il faut que chacun, on est obligé d'accepter ce qu'on a comme point fort et point faible, et on accepte, et à ce moment-là, on peut bien vivre avec.
Et vous leur parlez d'avenir?
Bien sûr, les enfants parlent d'avenir, parce que c'est aussi beaucoup une inquiétude des parents. Qu'est-ce qui va devenir et tout ça. Donc, pour les enfants, on reste quand même dans un avenir très proche qui les touche sur la scolarité, les copains, avoir de bonnes interactions et ne pas être en échec toute la journée à l'école. Oui.
Et d'avenir plus lointain.
Oh, ils sont rarement, ils se projettent rarement. Moi, je vois beaucoup des enfants jeunes en élémentaire, ils se projettent rarement plus loin. Mais par contre, les parents, oui, ils demandent est-ce qu'ils pourraient avoir une vie normale. Mais bien sûr qu'on peut avoir une vie normale avec un trouble du langage oral ou écrit, c'est évident. C'est important pour qu'il n'y ait pas ce poids et cette angoisse qui pèse sur l'enfant pendant toute son évolution et tout son développement. J'ai vu des parents d'enfants très jeunes pour un trouble du langage très important qui me disaient « Mais est-ce qu'elle pourra vivre normalement ?» Et le « normalement », on ne sait pas à quoi ça fait appel pour les parents. Ben oui, elle peut avoir une vie qui sera ce qu'elle en fera avec ses difficultés comme on fait chacun.
Ce qui se passe, c'est que dans tout apprentissage, il y a des fondamentaux, il y a des étapes à passer, et que quand on n'a pas passé les premières étapes, du coup, on va cumuler les difficultés, il va être de plus en plus difficile de progresser. C'est d'autant plus vrai pour les enfants qu'on voit ici, que nous, on voit des enfants qui ont non seulement des difficultés sur le plan du langage écrit, mais également, ça peut être sur le plan des mathématiques, dont moi je m'occupe ici à Paris Santé Réussite, ou sur le plan de la gestualité, ou sur le plan de l'attention. Et du coup, quand il y a... En général, c'est vrai qu'au début de l'apprentissage, on se concentre plutôt sur l'apprentissage de la lecture en CP. Donc pour des enfants qui sont déjà en difficulté sur ce plan-là, quand il existe aussi une difficulté par ailleurs, qu'on n'a pas perçue, qu'on n'a pas prise en charge, et bien du coup, ils vont continuer d'avancer avec ces difficultés, à passer les étapes. Et au moment où on se rend compte, quelquefois, pour certains enfants qu'on voit ici, on est arrivé à un point de presque de non-retour, quoi. On ne sait plus bien comment, par quel bout prendre les choses pour leur permettre d'avancer. Par exemple, pour les mathématiques, oui, c'est ce qui se passe. En fait, c'est ça, en rééducation, on refait les étapes et on aide les enfants. On revient au début pour les aider à passer les étapes qu'ils n'ont pas acquis au moment où ils auraient dû le faire.
On soigne, mais on ne va pas guérir. C'est-à-dire qu'on va essayer que l'enfant améliore ce qui est bon en lui et contourne ce qui est plus difficile. Et après, c'est un cadeau qu'on lui fait. Et après, lui, il en fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, et dans un environnement qui le soutient.
Alors, grand besoin d'orthophonistes, et en même temps des orthophonistes qui disent des choses assez paradoxales. Déjà, on évite trop de consultations, donc on ne fait pas trop de pubs non plus pour l'orthophonie du côté de la profession. Et puis, on affirme qu'on soigne, mais qu'on ne guérit pas, Françoise Garcia.
Eh bien, on dit la vérité. Puisque nous allons permettre aux personnes, alors s'agissant des enfants, nous allons leur permettre de fonctionner grâce à ce qui fonctionne bien pour eux, dans l'environnement. Ce qui est aussi important qu'on n'a pas dit, c'est vraiment de travailler tous ensemble, c'est-à-dire que on a parlé du parcours, vous avez évoqué tout à l'heure le parcours de soins, c'est aussi un parcours de santé, c'est-à-dire qu'on va être en partenariat avec les parents, la famille de l'enfant, mais aussi avec l'institution, donc avec l'école. Quand on peut mener ensemble un travail, on va permettre à l'enfant de fonctionner, de montrer son intelligence grâce à la connaissance qu'il va avoir de ce qui marche bien pour lui et des contournements dont on parlait.
Alors si on ne guérit pas, on doit assumer d'avoir une écriture imparfaite et parfois même une lecture imparfaite, mais... Dans un pays où c'est très central, l'écriture, ne serait-ce qu'une orthographe défaillante, c'est extrêmement stigmatisé. Là, on parle de difficultés qui sont bien supérieures. Est-ce qu'on ne s'abstrait pas un peu facilement de la centralité de l'écrit dans notre culture et dans ce que veut dire réussir y compris sa scolarité, une centralité qui n'est absolument jamais démentie, qui ne s'est pas démentie au fil de ces dernières années. Si on ne veut aborder que l'histoire très, très récente de l'école Adrien Martinez.
Oui, enfin, si la question, l'importance de l'écrit, elle est effectivement fondamentale.
On ne peut pas valoriser les enfants autrement ?
Évidemment, oui. Mais c'est donner accès à l'écrit comme outil pour penser, qui est quand même une exigence forte et importante, parce que c'est une exigence libératrice. Et en ce sens-là, alors il y a la question de la norme de l'écrit, mais il y a l'écrit comme outil et qui doit être accessible à tous et toutes. Ça, c'est une exigence qu'on doit continuer à porter, il me semble.
Oui, mais on peut dire sans baisser ces exigences. Est-ce que c'est possible de le dire que on peut être intelligent malgré une maîtrise faible de l'écrit. C'est ce que disent les dyslexiques. Peut-être avec vous, Catherine Billard, sur cette question.
Oui, mais c'est tout à fait clair. D'abord, il faut bien dire que quand même, grâce à une prise en charge, tous les enfants deviennent lecteurs. Ils restent mauvais lecteurs, mauvais orthographieurs, mais ils restent lecteurs. D'autre part, qu'il y a des moyens de compensation, qui le retour vocal, même la dictée vocale, qui se mettent progressivement en place et qui doivent permettre à l'enfant de ne pas être pénalisé par uniquement ce qu'il garde en séquelles de lecture et de d'orthographe. Il y a des moyens de compensation qui existent, il y a des aménagements pour la scolarité qui existent, et c'est d'autant plus important de les reconnaître et de vous les décrire, que du coup, on va permettre à l'enfant de vivre sur ses talents et non pas sur ce qui reste comme difficulté.
Françoise Garcia.
C'est parce que je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on confonde le traitement de bas niveau, qui va être la capacité à encoder correctement, du traitement de haut niveau, qui est celui de l'accès à cet outil magnifique de la langue écrite, qui effectivement structure la pensée, permet de comprendre la morphologie des mots, permet d'exprimer des émotions et donc de mettre à distance. Donc c'est vraiment ces compétences-là. Et donc pour tout ce qui est de ce qu'on va appeler de bas niveau, il y a des outils de compensation. Et ces outils sont de plus en plus acceptés pour les enfants qui ont des troubles 10, sont de plus en plus acceptés par l'école, même au niveau des examens, etc.
Les méthodes des orthophonistes pénètrent
Alors pas les méthodes, mais les outils. L'outil qui va lire pour l'enfant,
d'accord,
pour que cet enfant puisse accéder au sens, mais qui va lui permettre de traiter du langage écrit, qui n'est pas la même chose que de traiter du langage oral.
Un autre sujet aujourd'hui capte une partie de l'attention des parents, des enseignants aussi, et puis des éditeurs, parce qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont parus à la rentrée sur cette question. J'ai choisi celui de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Et si je l'ai fait, c'est parce que Michel Desmurger, explique, enfin c'est sa théorie, que trop d'écrans, ça conduit aussi droit chez l'orthophoniste.
Je suis souvent contacté par des associations d'orthophonistes, et ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce que ces gens-là vont raconter de leur expérience clinique, professionnelle, c'est exactement tout ce que l'on trouve dans la littérature scientifique au sujet de l'impact qu'ont les écrans sur le développement du langage, sur le développement de l'attention, d'un certain nombre de fonctions cognitives et exécutives. Mais par exemple, si vous mettez, une étude vient de sortir sur les tablettes, une demi-heure de tablette par jour pour un enfant de 18 mois, et vous triplez les chances qu'il finisse chez l'orthophoniste. 2 heures de télé, vous les multipliez par 6, etc. Donc il y a plein d'études comme ça pour 2 facteurs. D'abord parce que ça prend un temps considérable sur les interactions intrafamiliales et notamment sur les interactions verbales. Et puis si j'ai envie de dire, il y a un deuxième effet qui se coule. Le deuxième effet, il est lié à la lecture. Parce qu'il y a assez peu de richesse dans le langage oral. Alors c'est vrai d'une conversation telle qu'on peut l'avoir. Il y a plus de richesse langagière dans un livre d'un enfant d'école maternelle qui sait pas lire, qu'il peut y en avoir dans n'importe quel programme de télévision qu'ils ont pu regarder, de prime time, de dessin animé ou d'une discussion adulte. Donc la richesse du langage, elle est dans les livres. Plus les enfants passent de temps avec les écrans, d'abord moins leur langage se développe, donc plus ils ont du mal à lire, parce que à partir des interactions verbales, et en plus moins ils lisent, et moins leurs parents passent de temps à lire. Donc tout ça, c'est le fondement du développement du langage, et toutes les études montrent que la principale victime des écrans, l'une des principales victimes, c'est le langage.
Catherine Billard, est-ce qu'il n'y a pas une inégalité devant les écrans, une inégalité sociale? Vous êtes beaucoup intervenue dans les quartiers populaires, et cette fracture, elle serait entre ceux qui voient leur temps extrêmement limité et ceux qu'on laisse davantage devant des écrans.
Oui, l'inégalité, elle n'est pas tellement au niveau des écrans. Et je trouve que la généralisation de dire les écrans seraient responsables du fait qu'après, ils iraient en orthophonie est un peu excessive. L'inégalité, elle est qu'il y a des parents qui ont des conditions de vie telles qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de temps pour lire aux enfants, etc. L'inégalité, elle est peut-être aussi dans la nécessité de mieux coordonner les aides aux devoirs, de faire quelque chose qui soit plus convivial, plus chaleureux et qui passe plus effectivement par la communication humaine plutôt que par la communication visuelle.
Françoise Garcia, sur cette question
Donc, des écrans. Les écrans ne mènent pas plus chez l'orthophoniste. C'est le manque d'interaction qui peut faire que l'enfant ne va pas construire son langage. S'il n'a pas d'interaction avec les personnes, bien sûr avec les objets, mais dans la manipulation, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'accéder au langage oral. Donc peut-être, on va pas être réducteur, on n'est pas en train de non plus faire l'apologie de l'écran, au contraire.
Hein. Non.
Mais ça reste un outil.
Alors, regarder la télévision, ou même écouter la radio, c'est pas du tout comme entendre quelqu'un qui vous parle.
C'est une autre source d'information. C'est-à-dire que c'est pas pareil parce que on va pas interagir avec la radio. Si on pose une question à la radio, même si c'est Radio France,
on va pas téléphoner à France Culture.
Non, puis vous avez bien vu comment vous accompagnez chacun de vos mots par des sourires, des mimiques, des mouvements qui fait qu'il y a bien plus que le son et même que la prosodie et c'est la communication. Elle se passe aussi par le geste et par le regard.
Le geste et la parole. Merci beaucoup à tous les trois. On indiquera évidemment les titres des livres dont nous avons parlé, toutes les références à la page de l'émission sur le site de France Culture. Cette page est remplie avec beaucoup de soin par Avril Ventura qui m'aide beaucoup toutes les semaines. Vous savez, c'est la chargée de production d'Être et Savoir. C'est Philippe Baudouin qui réalise cette émission et c'est Clément Daté qui était à la prise de son aujourd'hui. Et je dois vous dire que la semaine prochaine, nous parlerons des parents d'élèves, un sujet d'actualité dans quelques instants, c'est la leçon de choses de Sophie Bobert.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc, ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar, un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor y dort, mais près de son oreille, merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a quitté, tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a quitté, tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes cocu, tac-a-tac-a quitté, et quitté ton quartier, tac-a-tic-a quitté, ta tactique était top, ta tactique était top, tac-a-tic-a quitté, ôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, on t'attend t'attaquer, contre ta cocotée, quatre écoutes pour compter, écoute ton quartier, tac-a-tic-a quitté. Tacatita quitté, tacatita quitté, tacatita quitté. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquère coquin et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait t'antiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac, matin quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie.
Afsia Hersi, comédienne, réalisatrice, désormais revient avec Sophie Bobert sur l'origine de cette énigme pour elle, hein, l'amour. L'amour toujours, et puis elle revient également sur sa jeunesse passée dans les quartiers nord de Marseille.
J'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, plus précisément dans le quartier des Oliviers, aux Oliviers E. Donc j'habitais au bâtiment E1. Et voilà, entourée de tours HLM et de toutes les couleurs. Enfin, ouais. J'ai eu une enfance très heureuse là-bas, voilà, avec de belles rencontres, de belles amitiés. J'ai beaucoup appris sur moi, sur et de belles valeurs. Donc, et je connaissais que ça. Donc je connaissais pas autre chose. Et tant que j'étais heureuse, voilà, ça allait. J'étais bien dans ma cité.
Qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique, hein, la jeune Afsia Hersi, dans sa chambre à la Cité des Oliviers?
Alors j'adorais, bah, comme dans le film, il y a Matt Houston et Lord Co-City, Cendrillon du ghetto. J'adorais, j'adore toujours Matt Houston, vraiment. Bah, ça a bercé mon enfance, mon adolescence. J'aimais ces textes, ces musiques. Le temps d'un moment, ça me faisait rêver, en fait. Parce que voilà, moi, les chansons m'ont beaucoup fait rêver. Parce que le temps d'un moment, voilà, ça nous racontait une histoire, on s'imaginait des choses et on avait envie de danser, de s'évader. Moi, ouais, j'aimais bien Matt Houston, bah, le R&B, le rap aussi, j'aimais bien le rap.
C'est des musiques que vous écoutiez en faisant vos devoirs, hein.
Ouais, en faisant mes devoirs, en allant voir une copine sur la route. À l'époque, il y avait les Walkman, je me rappelle. J'ai acheté les cassettes et donc ouais, j'aimais bien, j'adorais la musique, ouais, vraiment. Et ma mère, elle écoutait beaucoup Frédéric François, et du coup Frédéric François en boucle
Et tout ça, ça se conjuguait avec ces pièces de Molière ou de Marivaux que vous lisiez et ces fables de La Fontaine que vous appreniez par cœur.
Que j'apprenais par cœur, qui me faisait rêver aussi. Enfin, tout ce qui racontait des histoires, ça me faisait rêver en fait.
Mais
ça...
le langage est très délicat.
Enfin, les fables de La Fontaine, c'est accessible à tous, hein. Même petits, enfin, bien sûr, ouais. Oui, après, avec le temps, on comprend un peu les sous-textes. On comprend les sous-textes, et, mais ouais, et après, c'est des magnifiques textes.
Vous rêviez en costume aussi ?
Ouais, j'étais très rêveuse, hein, toujours d'ailleurs. Ouais, je suis une rêveuse, et c'est ça qui m'a donné la force d'y croire et de me battre, hein. C'est le rêve. Vraiment, j'avais envie de... Même si j'aimais mon quartier, voilà, les valeurs et tout ça, j'avais envie de partir de là-bas parce que je savais très bien que c'était compliqué, quoi. Que c'était, ça allait être dur d'aller loin, en fait, en restant aux Oliviers, quoi. À part, voilà, le quartier en bas avec les copines et la télé. Voilà, il n'y a pas grand-chose pour rêver. Du coup, ouais, beaucoup télé, séries télé, La Petite Maison dans la Prairie, Dr. Quinn, Beverly Hills... Le Prince de Bel-Air aussi, ça m'a fait rêver petite. Ça m'a fait rêver et déjà petite, j'avais envie d'être actrice et réalisatrice. Mais c'est vrai que ces séries-là m'ont fait rêver. Ouais.
Vous en parliez de votre rêve de devenir actrice ou réalisatrice ou alors est-ce que vous le gardiez secret ?
Non, tout le monde le savait. Voilà, ma mère, apparemment, quand j'étais petite, je ne me rappelle pas, je disais que je voulais être actrice quand j'avais 2-3 ans. Et non, j'ai vraiment... tous les gens qui m'ont connue jeune savent que c'était mon rêve, quoi. Et même à l'école, tout le monde savait que je rêvais de cinéma et de filmer, quoi. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de faire un film sur la rupture, le deuil amoureux, enfin vraiment traiter la rupture comme un deuil, quoi. Parce qu'adolescent et enfant, on est protégé quand même un petit peu, voilà. Et même on a, en tout cas moi dans mon adolescence à Marseille, dans le quartier nord, c'était vraiment il n'était pas question de ça, quoi. Voilà, on nous apprend pas à aimer et on nous apprend pas à être quitté. Déjà, même au collège, quoi, on parlait pas avec les garçons, on les aimait pas, enfin...
On se méfiait.
Non, on se méfiait, on les aimait pas. Moi, j'aimais pas les garçons, j'aimais pas rester avec les garçons. Ça m'ennuyait, en fait, je préférais rester avec les filles. Donc, c'était pas la question, mais c'est vrai, après, en avançant dans le temps et en grandissant... Honnêtement, il y a peu de temps où j'ai compris que les hommes et les femmes étaient très différents, quoi. Et le film aussi, j'ai voulu le faire pour ça, justement. Parce qu'on n'est pas préparé à ça, hein. Là, j'ai fait une projection à Créteil pour des lycéens et il y en a plein qui sont venus me voir en me disant « Votre film m'a beaucoup touché, ça m'est arrivé et ça m'a bouleversé. » Je me suis dit « Mais si petit, déjà, on n'est pas préparé à être quitté. » Je pense qu'il faut préparer les enfants à l'amour un petit peu.
Et on se quitte sur cette belle idée. Est-ce qu'on peut se préparer à l'amour ? Ce serait une belle question pour une prochaine émission. Je vous indique que le film d'Afsia Hersi, Tu mérites un amour, est toujours en salle actuellement. Et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt sur France Culture.